Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidze à la présentation de cette édition du mardi 20 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, les autorités font état d'une tentative d'assassinat du président de transition lors de la prière de l'Aïd. En RDC, le président Tshisekedi élève à titre posthume le cardinal Laurent Monsengo Passigna au titre de grand cordon de l'ordre national des héros nationaux. À bord de sa fusée Blue Origin, l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, réalise à son tour son rêve spatial. L'affaire Pegasus entre les mains de la justice française. Une enquête est ouverte à Paris sur l'espionnage de journalistes. Attentat sanglant sur un marché de Bagdad à la veille de l'Aïd. Une trentaine de personnes tuées. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. Le président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, s'est déclaré mardi indemne. Quelques heures après avoir été visé par une tentative d'assassinat à l'armée blanche durant la prière musulmane de l'Aïd al-Adha à la grande mosquée de Bamako. Les précisions de Mohamed Danyoko.
Ce matin, la fête de l'Aïd el-Kébir a été quelque peu entachée dans la capitale Bamako. En effet, le chef de l'État, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été victime d'une attaque à l'arme blanche au sein même de la grande mosquée. Tout est arrivé au moment où l'imam de la grande mosquée, après avoir terminé son sermon, est sorti de la mosquée pour immoler son mouton. Profitant des va-et-vient au sein de la mosquée, cet individu armé de couteaux s'est approché du président de la transition et a voulu le poignarder. La promptitude des gardes autour de lui en fait que le président n'a pu être atteint par l'arme blanche. Un peu plus tard, on a pu voir sur les réseaux sociaux des images de jeunes gens, en tout cas aux mains des forces armées, embarqués dans des véhicules et amenés dans les différents postes de police. Pour l'heure, on ne sait pas réellement l'identité de ces personnes qui ont voulu attenter à la vie du président de la transition, ni leur motivation réelle, mais les heures qui suivent permettront certainement de le savoir. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Trois soldats burkinabés et un supplétif civil de l'armée ont été tués vendredi par l'explosion d'engins artisanaux dans le nord du Burkina Faso, selon l'état-major qui assure que des dizaines de terroristes ont été neutralisés le même jour lors d'une opération des forces de sécurité. Le chef de la junte au pouvoir au Tchad a déclaré mardi que les rebelles qui ont lancé une offensive en avril n'ont pas encore désarmé, selon le site de la présidence. Les autorités tchadiennes avaient affirmé début mai que les rebelles étaient en débandade. Mahamat Debi avait accusé les rebelles tchadiens d'être des mercenaires en Libye et d'être entraînés par des forces étrangères. L'armée américaine a mené mardi une frappe aérienne contre des djihadistes Shebab affiliés à Al-Qaïda, la première depuis la prise de fonction du président Joe Biden fin janvier. Selon une porte-parole du Pentagone, Cindy King, le résultat de l'opération est en cours d'évaluation, les combats se poursuivant au sol entre les Shebab et les forces gouvernementales, a précisé la porte-parole. Toujours en Somalie, le mouvement djihadiste Shebab lié à Al-Qaïda a mis en garde les hommes politiques participant aux élections en Somalie qui doivent débuter à la fin du mois dans un message audio attribué à son chef. Les élections législatives et présidentielles indirectes doivent commencer le 25 juillet par le vote pour le Sénat. Le président congolais Félix Tshisekedi a décoré mardi à Kinshasa à titre posthume le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Son corps a été exposé à Kinshasa au Parlement pour des hommages officiels et populaires. Le chef de l'État a déposé la médaille de l'ordre sur le cercueil du prélat après la lecture de l'ordonnance présidentielle, l'élevant à titre posthume au titre de grand cordon de l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba pour les éminents services et mérites rendus à la nation congolaise. Décédé le 11 juillet près de Paris à 81 ans de suite d'une maladie, Monseigneur Monsengo a longtemps joué un rôle politique de premier plan dans son pays. Son inhumation est prévue mercredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une nouvelle étape pour la bourgeonnante industrie du tourisme spatial. L'homme le plus riche de la planète, l'Américain Jeff Bezos, a réalisé son rêve de l'espace aujourd'hui à bord du premier vol habité de son entreprise Blue Origin. Jacques Aristide.
2-1.
Même avec quelques minutes de retard, le décollage a bien eu lieu ce mardi. Le propulseur New Shepard s'est envolé à 8h11 depuis le désert du Texas. Aux côtés de Jeff Bezos, dans ce vol entièrement autonome, son frère Mark, la pionnière de l'aviation Wally Funk, 82 ans, est le premier client payant de Blue Origin. Un Néerlandais de 18 ans, Oliver Demen, qui sont devenus respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'histoire. Dans l'espace, depuis de larges baies vitrées, ils ont pu admirer la planète bleue et le reste de l'univers. « C'est tout noir ici !» s'est exclamée Madame Funk. Après quelques minutes en apesanteur, la capsule est redescendue pour atterrir dans le désert après un vol d'environ 10 minutes. Welcome back. Les quatre passagers ont été accueillis par des cris de joie. Jeff Bezos arborait un chapeau de cow-boy. Le vol intervient le jour du 52e anniversaire des premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Il y a 10 jours, le fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson, a coiffé au poteau l'ex-PDG d'Amazon dans cette bataille de milliardaires. Mais le Britannique n'a atteint que 86 km d'altitude avec son vaisseau Virgin Galactic. Jeff Bezos, 57 ans, insiste toutefois que cette course vers les étoiles n'est pas une compétition.
Oh, what a day, what a day.
La justice française a ouvert une enquête sur l'affaire Pegasus pour examiner la plainte de journalistes dont l'infiltration de téléphone pour le compte du Maroc a été révélée par un consortium de médias. Les précisions de John Lyndon.
Plusieurs médias, dont les quotidiens Le Monde, Le Guardian et Le Washington Post, ont révélé dimanche que la journaliste des Mediapart, Lenaïk Braidou, et le fondateur du site, Eddy Plenel, figure parmi les plus de 180 journalistes espionnés à travers le monde via ce logiciel pour le compte de différents États, y compris le Maroc. En réponse, le site d'information a porté plainte lundi. Selon Le Monde, outre des journalistes marocains, une trentaine de journalistes et de patrons de médias français figurent sur la liste des cibles des Pegasus dans des rédactions aussi variées que Le Monde, Le Canard Enchaîné, Le Figaro ou encore l'AFP et France Télévisions, tous n'ayant pas nécessairement été ensuite piratés. L'enquête en France démarre sur une liste des 10 infractions potentielles, dont l'atteinte à la vie privée, l'interception de correspondances, l'accès frauduleux à un système informatique et l'association de malfaiteurs, a détaillé dans un communiqué le parquet de Paris. L'enquête vise également d'autres infractions telles que l'introduction, l'extraction et la transmission frauduleuse de données potentiellement imputables aux utilisateurs des Pegasus.
La Belgique a observé mardi une minute de silence en hommage aux victimes des inondations qui ont dévasté une partie du pays les 14 et 15 juillet. En Allemagne, où le bilan est encore plus lourd, la chancelière Angela Merkel s'est rendue à la mi-journée auprès des sinistrés d'une communauté de Rhénanie du Nord-Westphalie dans l'Ouest. En Irak, Bagdad est encore sous le choc de l'attentat qui a fait 36 morts hier dans un marché populaire où de nombreuses familles faisaient leurs courses à la veille de l'Aïd. L'attaque qui a tué en majorité des femmes et des enfants a été revendiqué par le groupe djihadiste État islamique. Claire Morin-Gibourg.
Ce matin, quelques heures après le carnage, des habitants nettoyaient la partie du marché dévastée par l'explosion. Les premières funérailles ont eu lieu aujourd'hui à Sadr City, cette immense banlieue chiite déshéritée à l'est de Bagdad. Dans sa revendication sur Telegram, l'État islamique a affirmé qu'un kamikaze avait fait détonner sa ceinture d'explosifs. Cet attentat perpétré à la veille de la fête musulmane du sacrifice soulève des inquiétudes sur la capacité de l'organisation djihadiste, officiellement vaincue, à frapper en plein cœur de l'Irak. Dans un communiqué, le Premier ministre Mustafa al-Kazimi a promis que le terrorisme ne resterait pas impuni et que les auteurs seraient poursuivis où qu'il se cache. L'attentat intervient alors que M. Kazimi est attendu à Washington en fin de semaine pour rencontrer Joe Biden dans un contexte politique irakien déliquescent et à quelques mois des élections législatives prévues en octobre.
Au moins 5 combattants pro-régime ont péri dans des frappes nocturnes israéliennes en Syrie, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au SDH, 2 combattants syriens ont été tués, ainsi que 3 combattants non syriens de groupe pro-Iran, a précisé l'ONG. C'est le moment de suivre la Minute Éco signée ce soir par Nathalie Barge.
Le Gabon est leader du commerce électronique en Afrique centrale, selon un rapport de GSMA qui regroupe les opérateurs télécoms du monde. Plus de 38% de la population effectue des achats en ligne dans le pays. Viennent ensuite le Cameroun, 32%, le Rwanda, 30,9% et l'Angola, 30,4%. Au classement général du rapport, les 3 premiers pays d'Afrique subsaharienne sont l'Afrique du Sud à la 76e place, le Nigeria à la 79e et le Kenya à la 88e. Au Togo, plus de 1300 tonnes de poissons ont été pêchées entre janvier et mai au port de pêche de Lomé, soit une progression de 36% par rapport à la même période l'an dernier. Sur cette période 2021, le pays est passé à plus d'un million de poissons de plusieurs variétés pêchées, indique sur Facebook le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. La Fondation Nobel a vendu ses participations liées au secteur du pétrole après s'être également retirée de l'industrie du charbon. Cet investissement de près de 350 millions de couronnes, soit environ 40 millions de dollars, était placé dans un fonds qui ne disposait pas de restrictions assez fortes sur le pétrole, a déclaré Vidar Helgesen, patron de la fondation basée à Stockholm.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Nous sommes avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Des nouvelles de Tokyo 2020 pour commencer. Le sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud de football, David Notoané, dit craindre que ses joueurs soient victimes de malaise cardiaque après leur période d'isolement pour préparer les Jeux. Bagasikoura.
Oui, les Sud-Africains débutent leur tournoi olympique jeudi face au Japon, mais ils disent être perturbé par les 3 tests positifs au Covid-19 de 2 joueurs et d'un analyste vidéo à leur arrivée au village olympique. À la suite de ces tests positifs, 21 membres de leur délégation ont été déclarés cas contact lundi et confinés dans leur chambre, ce qui leur a fait rater 2 séances d'entraînement. Le sélectionneur affirme avoir peur que le manque de temps pour s'acclimater à la température et à l'humidité de Tokyo fasse courir un risque à ses joueurs quand ils arriveront sur la pelouse. Il n'a pas hésité à citer l'exemple du Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque à l'Euro.
Merci Bagassi. L'haltérophile ougandais disparu depuis vendredi d'un camp d'entraînement au Japon a été retrouvé sain et sauf, annonce la police japonaise, précisant qu'il a voyagé jusqu'à Nagoya, puis vers la préfecture de Gifu, avant de se rendre vers le sud à Mie. Julius Sekitoleko avait disparu après avoir omis de se présenter à un test de dépistage du Covid-19. Ce sportif de 20 ans avait quitté l'hôtel d'Izumisano, près d'Osaka, où il logeait avec son groupe. Julius Sekitoleko, qui a remporté récemment la médaille de bronze au championnat d'Afrique d'haltérophilie, était sur une liste d'attente pour les JO, mais a récemment perdu tout espoir de participer pour des raisons de quota olympique. Il devait rentrer prochainement dans son pays. Et puis, c'est fini entre la Zambie et son sélectionneur serbe Milutin Sredjovic. Après une réunion entre la fédération et le sélectionneur, nous avons conclu qu'il était dans l'intérêt des deux parties de mettre fin à la collaboration, indique la fédération, à un mois et demi du deuxième tour des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Serbe de 51 ans était en poste en Zambie depuis février 2020. La Zambie n'a pas réussi à se qualifier pour la prochaine CAN, elle qui a remporté l'édition de 2012. Elle a aussi été éliminée en phase de groupe de la Coupe COSAFA 2021, qui regroupe les équipes d'Afrique australe. Pour accéder au barrage qualificatif pour le Qatar, la Zambie devra terminer première d'un groupe composé de la Tunisie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Finale NBA, Milwaukee pourrait être sacré champion ce soir. En cas de victoire, les Bucks, qui avaient pourtant mal démarré cette finale, en perdant leurs 2 premiers matchs, ont réussi à renverser la vapeur et mènent désormais 3-2. En cas de victoire des Suns, Les deux équipes se départageront dans le match numéro 7 jeudi à Phoenix.
C'était les sports préparés par Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado retourne avec vous pour aborder les dossiers du jour. À l'occasion de la Tabaski, les musulmans du Burkina Faso ont prié pour la paix et la stabilité dans leur pays, confrontés depuis 6 ans au terrorisme. Les responsables et fidèles d'autres confessions religieuses du pays étaient également sur les lieux de prière aux côtés des musulmans de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ils étaient des milliers de fidèles à se rendre ce matin à la place de la Nation dans le centre de Ouagadougou. Ici, comme dans plusieurs autres localités du pays, les musulmans prient lors de cette fête de la Tabaski. El Hadj Mohamed Ouedraogo est le vice-président de la communauté musulmane du Burkina.
Les principales leçons de cette fête de la célébration de la Tabaski, c'est le symbole du sacrifice, le symbole de l'acceptation et du don à Dieu et du don à l'islam. Et nous avons vécu tout de suite ce que l'imam a fait comme prêche. Ce sont des prêches qui montrent que tout musulman doit se soumettre à la volonté de Dieu, doit se soumettre et accepter les recommandations divines. C'est une interpellation que nous rappelle cette célébration de la fête de Tabaski.
Ce fidèle a prié pour la paix dans son pays.
Nous implorons Dieu que sa grâce, subhanallah, que Dieu nous donne l'envie et apaise la douleur, le cœur des gens, pour qu'on se réunisse, pour que le Burkina Faso soit un pays de paix. Nous prions Dieu que le pays revienne à sa situation.
La fête de la Tabaski est aussi un moment de tolérance religieuse.
Je ne suis pas musulmane, je suis catholique. J'ai plutôt un mari musulman. Mais je suis là au nom de l'église catholique.
Marie-Odile Traoré, une catholique.
Nous sommes venus et témoigner de notre fraternité, de notre proximité avec nos frères et sœurs musulmans. Tout ce que je demande, c'est la paix, parce que sans paix, on ne peut pas se retrouver. La paix est le socle, la base de toutes choses. Voilà. Nous demandons la paix, rien que la paix. Voilà. La paix, l'unité, la fraternité entre nous.
L'abbé Alfred Ouedraogo, vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadougou, a aussi représenté l'archevêque.
Nous embouchons la même trompette que les responsables de la communauté musulmane qui ont prêché aujourd'hui la paix et la cohésion. Ce sont les mêmes vœux que nous formulons à toute la nation burkinabé en ce jour de grande importance pour nos frères musulmans. Que Dieu donne au Burkina la paix, qu'il nous enseigne à tous la cohésion.
Des autorités du pays, le ministre de l'administration territoriale, celui de la réconciliation nationale, était aussi aux côtés des musulmans pour la grande prière de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, la Tabaski. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La communauté musulmane du Bénin célèbre ce 20 juillet l'Aïd el-Kébir, une fête qui intervient pour la deuxième année consécutive en pleine crise sanitaire, mais également dans un contexte marqué par la cherté de la vie. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Ils sont nombreux à prendre d'assaut les places idées de la localité pour la prière qui marque la célébration de la Tabaski, l'Aïd el-Fitr. À la fin de la prière, quelques fidèles se confient.
La Tabaski, c'est la commémoration de l'acte qu'Ibrahim a posé, l'acte de piété, de confiance en Dieu, de loyauté en Dieu.
Cette fête intervient après les carêmes. Le prophète voulait sacrifier un de ses enfants quand Dieu lui a envoyé un mouton de dégorger le mouton au lieu de sacrifier son fils. Donc, raison pour laquelle chaque année, on fête cette fête-là.
La Tabaski, c'est une adoration et un souvenir de notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme Dieu l'a exigé de le faire.
Dans la célébration de la fête de la Tabaski se trouve l'essence même de la foi musulmane, dira Poussapa El Hadj Asifaou Amoussa, président de l'Union islamique du Bénin.
La fête de la Tabaski est mise au sein des mois sacrés. Et je peux dire le deuxième mois sacré, parmi les trois mois sacrés qui se suivent, qui est le 12e mois lunaire. Les 10 premiers jours sont les jours les plus meilleurs de toute l'année pour un acte d'adoration. Alors le 10e jour de ce 12e mois de Zulhijja, c'est durant ce jour que Allah nous a ordonné dans le Coran et de par la sunna du prophète de sacrifier la bête, de faire la fête de la Tabaski.
Après la prière, direction les maisons où chaque famille, dans la possibilité de ses moyens, procède à l'immolation d'un ou plusieurs moutons. Malgré la cherté du mouton cette année, Rafiou a pu s'en sortir. Pour lui, le sacrifice en vaut la peine.
Après la prière à la mosquée, on a essayé de voir comment l'imam a tué le mouton qu'on a amené à la fête. Et puis, arrivé à la maison, nous avons essayé de tuer aussi nos moutons. Et nous avons commencé par faire un travail nécessaire avant que les invités ne viennent.
C'est après la prière que certains sont allés sur le marché du mouton, espérant que les prix seront moins exorbitants. Pour eux, cette année, les prix des bêtes ont connu une hausse assez décourageante.
Cette année, effectivement, les temps sont un peu durs et on remarque que les prix quand même ça varie et que par rapport à l'année dernière, bon, c'est un peu dur.
Cette année vraiment, ça ne va pas.
Les moins nantis se rabattent sur les bouchers. À défaut de tuer un mouton, en acheter pour rester dans la fièvre de ce jour de Tabaski paraît important.
C'est la prière seulement qui est une obligation. Mais immoler un mouton quand tu n'as pas la force, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà fait pour nous. Donc si tu n'as pas les moyens, on ne te dit pas d'aller demander ou bien d'aller prendre à crédit parce que tu n'as pas, Dieu connaît ton cœur. Donc c'est pas une obligation.
Le temps est un peu dur. Donc il n'est pas permis à tout le monde d'immoler un bélier. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui ont toute une petite famille, donc ils peuvent venir à une boucherie, acheter juste une partie du mouton.
La Tabaski, plus qu'un simple événement religieux, est une occasion de grande réjouissance en famille et avec les proches, malgré les barrières imposées par le coronavirus. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Comme l'an passé, la célébration de la Tabaski coïncide avec une augmentation exponentielle des cas de COVID-19 au Sénégal et une conjoncture économique très sévère. On parle même de troisième vague avec l'apparition du très contagieux variant Delta. Le ministre de la Santé a d'ailleurs exhorté les Sénégalais de Dakar à ne pas aller fêter la Tabaski dans leur région d'origine pour éviter une propagation du virus. De Dakar, la correspondance de Seydina Abagay.
À quelques heures de la fête de Tabaski, les rues de Dakar grouillent de monde. Ici, la fête occasionne de nombreuses dépenses, parmi lesquelles l'achat du mouton de sacrifice, les habits pour la famille, entre autres. Issa est un nouveau marié. Avec ses nombreuses charges et ses revenus modestes, il compte faire avec les moyens du bord.
Il faut tout planifier et s'organiser. La Tabaski se prépare à l'avance. Le côté spirituel de l'événement est le plus important. Voilà pourquoi il ne faut pas verser dans le gaspillage. Personnellement, si j'ai un budget de 50 000 francs, je ferai avec.
La Tabaski, la célébration du Gamou ou encore le Magal de Touba, des successions d'événements religieux qui nécessitent souvent beaucoup de dépenses et de rassemblements. Voilà pourquoi Serigne, père de famille et marchand ambulant, compte faire la fête dans la sobriété, mais il désapprouve les nouvelles mesures prises par l'État pour lutter contre la variante Delta du coronavirus.
C'est bientôt la Tabaski. Après, il y a le Magal de Touba dans un contexte de conjoncture. Le plus important pour nous, pères de famille, c'est d'avoir de quoi fêter et subvenir à nos besoins. Il y a plus urgent. Pour nous, on nous parle de troisième vague et de mesures restrictives.
Se considérant comme un musulman pratiquant sous le couvert de l'anonymat, ce monsieur compte se rendre à son village natal pour la Tabaski. Il ne croit pas à l'existence de la troisième vague, donc pas besoin d'appliquer les gestes barrières, nous dit-il.
Je ne respecte pas les gestes barrières et je ne vais pas appliquer les nouvelles mesures prises par l'État pour la Tabaski. Vous savez pourquoi? Je ne crois pas à l'existence d'une troisième vague, notamment du coronavirus. Je n'ai jamais vu une personne atteinte de COVID-19.
Et pour la prière à la mosquée le jour de la Tabaski, Modou ne compte pas déroger à la règle.
Je ne pense pas ne pas le faire. Le président et les membres du gouvernement organisent des rassemblements, donc nous aussi, on peut le faire.
Encore une fois, l'Eid, communément appelé Tabaski, sera célébré dans un contexte particulier avec l'apparition d'un nouveau variant dénommé Delta, qui est très contagieux. Pour éviter la prolifération du virus, l'État a pris de nouvelles mesures et le président de la République a même appelé les Sénégalais à adopter des comportements responsables, mais ces derniers sont de moins en moins enclins à suivre les recommandations des autorités, surtout en cette période de fête. Seydina Abagué à Dakar pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été lancés hier à Abidjan en présence du Premier ministre Patrick Achi. Ils s'étendront sur 6 mois et prendront fin avec la remise officielle des conclusions au chef de l'État. D'après le gouvernement, ces assises offriront à tous les acteurs du système éducatif l'opportunité de faire un diagnostic et de rentabiliser les investissements injectés dans le secteur éducatif. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Abidjan Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme nationale des syndicats de la fonction publique.
Depuis 1994, il n'y avait plus ce genre de rencontres. Et pourtant, depuis cette période, tout le monde a constaté que le système s'était véritablement affaibli. Et le rapport PASEC 2019 a encore montré que notre système était véritablement très en retard en rapport avec la sous-région. Il a même démontré que 59% des Ivoiriens, des élèves ivoiriens au primaire qui arrivent en fin de cycle ne savaient pas lire correctement et qu'en mathématiques, c'était d'ailleurs très grave. 82% de ces élèves-là n'étaient pas au niveau. Donc face à cette situation, les Ivoiriens choqués, le gouvernement aussi, tout le monde a décidé donc que l'on puisse aller à cette rencontre.
Qu'est-ce qui est recherché justement à travers ces états généraux-là?
Il s'agira de diagnostiquer le système et d'en déterminer les forces et les faiblesses et de dégager des résolutions et des recommandations innovantes pour construire dans la durée un nouveau système qui, n'est-ce pas, prend en compte toutes les propositions participatives. Ensuite, il s'agira de faire aussi des propositions et des recommandations pour construire une entente mutuelle et durable autour de l'école. Donc voici les 3 grands objectifs qui sont recherchés dans cette rencontre qui va durer 6 mois et les rencontres vont se dérouler dans toutes les régions. Ensuite, il y aura une plateforme interactive et participative sur les réseaux sociaux qui va permettre aux Ivoiriens, dans leur ensemble, de faire leurs propositions. Et au bout du compte, au mois de janvier, il y aura une synthèse de tout ça.
On sait que généralement, en Afrique, le souci, c'est qu'il y a plusieurs syndicats au sein des ministères de l'éducation ou de l'enseignement en général. Est-ce que là, vous avez réussi à avoir l'adhésion, la participation de tous?
Hier, à le lancement, tous les syndicats du secteur éducation-formation étaient réunis autour de ces assises-là, étaient tous présents, parce que en réalité, pour nous, c'est une occasion rêvée, parce qu'on veut sortir aussi du cycle des grèves intempestives. On n'avait jamais eu l'occasion depuis, je dirais, près de 26 ans d'avoir un contexte important pour discuter. Donc, c'est l'occasion aussi pour les syndicats de poser les problèmes des enseignants.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette rencontre se transforme en juste une plateforme où les enseignants vont juste exposer leurs préoccupations salariales, justement?
Oui, mais on ne peut pas faire l'économie de ces préoccupations. C'est vrai que ces assises sont organisées autour de thématiques, de la question des infrastructures qui sont pratiquement aujourd'hui dépassées. En Côte d'Ivoire, on note que pratiquement 90%, 80% du système est aux mains du secteur privé. Donc, il faut que l'État reprenne sa place dans ce rôle régalien pour rebâtir des établissements, remettre en route, n'est-ce pas, les cantines scolaires, les internats. Il y a la question du recrutement, du niveau de recrutement des enseignants du primaire. Mais on ne pourra pas faire l'économie, n'est-ce pas, des questions salariales, des questions, des préoccupations majeures des enseignants qui font partie, bien sûr, des débats qu'il faut mener courageusement et affronter.
Est-ce que le gouvernement s'est engagé, par exemple, à mettre en œuvre tout ce qui va ressortir comme recommandation?
L'ouverture a été faite par le Premier ministre de Côte d'Ivoire qui s'est engagé à accompagner ce processus. Parce que le plus important pour nous, c'est la mise en œuvre. Parce qu'il y a eu 5 états généraux, mais les résolutions étaient toujours rendues dans les placards. Et c'est là que se trouve l'inquiétude de tous les partenaires et de tous les Ivoiriens. Et l'innovation ici, pour nous, ce sera la mise en œuvre effective de ces résolutions-là, notamment en les hâtant par des décisions gouvernementales, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de brésière, un document unique qui pourra servir d'orientation générale pour l'éducation. Et nous pensons que les résolutions devront aller à l'Assemblée nationale pour que cette résolution ait force de loi.
Président de la plateforme nationale des syndicats de la fonction publique, joint à Abidjan. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. À la présentation, Eric Madirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24. Restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.